Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission des Gardiens de la BD sur Radio PFM 99.9, radiopfm.com, et puis c'est à peu près tout. Thibaut et Franck se sont absentés puisqu'ils continuent de discourir sur les joies de la biodiversité et du potager. Donc avec moi ce soir il y aura Fred.
Bonsoir.
Laurent.
Bonsoir.
Et Quentin.
Salut, salut.
Messieurs, comment allez-vous ?
Bah, plutôt bien. Un petit rhino que je vais passer aux copains, à défaut de leur passer le Covid.
Ça, c'est gentil, merci.
T'as quand même fait un test ?
Un test de quoi ?
Ouais, c'est ça. Tu m'inquiètes, Laurent.
Grosset, je suis sûr.
Ok, on va commencer tout de suite avec Fred. Et je cite, tu veux nous parler d'un classique de la Belgitude.
Exactement, moi je suis là pour remonter le niveau parce que ici on parle que de titres Télérama, de trucs américains, japonais et compagnie, et puis on parle jamais de BD, de bonnes BD franco-belges, bien historiques, bien classiques, enfin des trucs
la BD de Quinca.
Je t'emmerde, déjà. T'es pas plus vieux que moi, toi ?
Non.
Et voilà, d'une bonne BD qui aurait pu être publiée chez Glénat, par exemple, mais bon, là, c'est pas le cas. Et on m'a dit d'être faire soft avec Glénat. Il y a des espions dans la place.
Ouais, à ce moment-là, si on peut parler d'espions, c'est une bonne BD qui a beaucoup de tomes au compteur et ça peut arranger les libraires.
Exactement. Il faut sauver Noël, donc je suis ici pour vous parler de L'Épervier. De Patrice Pellerin. Et donc c'est une BD en...
C'est sorti d'abord chez Dupuis et après chez Soleil.
Ouais, c'est une BD qui est arrivée au 10e tome. Là, ils viennent de sortir le noir et blanc parce qu'il n'y a pas de... y a pas de gêne à se faire du bien avec un petit peu de profit juste avant la sortie officielle, pourquoi pas. Hein, après tout, les lecteurs sont clients de ce genre d'objet, donc ils le font. Six tomes d'abord parus chez Dupuis dans la collection Repérage, puis 4 tomes chez Cadran, qui est une filiale des éditions Soleil, qui appartiennent maintenant à Delcourt. Il faut les suivre, hein, ces gens, c'est un peu compliqué. Pourquoi je voulais vous en parler ? Blague à part, parce que je trouve que je vous écoute pas mal, et c'est vrai qu'on parle pas souvent de BD au long cours, historique, vachement bien fait. Ce que disaient Margerin et quand ils ont créé la maison d'édition de séries commerciales d'auteurs. Voilà. Donc L'Épervier en est une.
Alors, pour défendre l'équipe, on ne parle pas de longue série au long cours parce que ça demande de la préparation. C'est plus facile de parler que d'un album.
C'est clair que j'ai dû me fader tous les tomes là, juste avant de venir. J'avais plus vraiment l'histoire en tête. Effectivement, ça demande du travail, ça m'a fait
Et alors, du coup, L'Épervier, c'est un rapport avec les 7 villes d'Épervier ?
Pas du tout. Ça aurait pu, parce que Pellerin, il a commencé sa carrière, alors toi, tu dois le savoir, avec Barbe Rouge.
Oui, il avait repris Barbe Rouge dans les années 80, ouais. Il a fait deux albums.
Et puis, il s'est essayé à la BD historique dans la collection de Vécu de Glénat, justement, avec les premiers tomes des Aigles décapités avec Craen au dessin. Et c'est au bout de quelques tomes qu'il s'est dit qu'il voulait bosser tout seul et qu'il a créé le personnage de L'Épervier. Alors après, il faudrait vérifier les dates, mais il me semble que Les Sept Vies étaient certainement déjà lancés à l'époque. Il y a peut-être eu des problèmes.
C'était déjà fini aussi.
Ça, c'est ton avis. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je vais pas résumer L'Épervier ici, ce serait trop compliqué, juste essayer de vous donner un petit peu envie, mais Le cycle actuel, il ressemble beaucoup à Plume au vent, le deuxième cycle des 7 vies de L'Épervier. Et Pellerin est quelqu'un de très connu pour... oui, parce que, alors, devenons concrets, L'Épervier, ça met en scène un corsaire du roi français, un aventurier de petite noblesse qui a connu le bagne, qui a connu plein de choses comme ça, mais qui est un chevalier absolu, un espèce de paladin qui...
Et pourquoi il a connu le bagne ?
Alors ça, je crois qu'on ne nous l'a toujours pas expliqué d'ailleurs au passage. Je n'ai pas relu le premier cycle, mais même dans le premier cycle, je pense qu'on ne nous l'explique toujours pas. Donc ce corsaire du roi dans le nouveau cycle de L'Épervier est recruté directement par le roi de France pour une mission top secrète au Canada. Un Canada ravagé par des Indiens qui... qui, alliés des Anglais, veulent faire
ravagé tomber. Par les Indiens, c'est un peu du révisionnisme, je dirais, mais c'est bon.
Alors, je te parle de la colonie française du Canada. Oui, oui, t'as raison, j'y ai pas pensé. Bon, d'accord, on commence fort. Et donc, effectivement, cette guerre européenne entre les Anglais et les Français s'est exportée au Canada. Les Anglais qui agissent pas, qui veulent pas agir ouvertement, utilisent une bande d'Indiens qui ravagent la Nouvelle-France.
Et, comme dans Le Dernier des Mohicans.
Ouais, c'est un petit peu comme ça. Bah, après, Pellerin, un mec hyper consciencieux, qui travaille beaucoup les détails, il travaille avec des archéologues maritimes, il travaille avec des architectes pour les bâtiments, et ainsi de suite. Il est hyper lent, hein. Il met 3 à 4 ans pour faire un tome, c'est une vraie catastrophe à suivre, il faut toujours relire les albums, mais dedans, quand t'es dedans, t'es dans du Alexandre Dumas. T'es dans de la grande aventure littéraire du 19e, on va dire. Et donc je reviens à mon petit pitch là. Cette guerre larvée, le roi de France veut s'en assurer la victoire grâce à un accord qui passe avec une tribu d'Indiens qui est assez dominante sur le territoire. Et les ennemis français comme anglais du roi de France tentent par tous les moyens de tuer une princesse indienne dont...
Pocahontas.
dont l'épervier a la mission de raccompagner chez son père en la protégeant. Voilà. Donc en fait, il y a de la marine à voile. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que...
Non, si tu la faisais pas, je la faisais.
Voilà.
Non, ce qui m'a surpris, c'est que Pellerin, il est vachement connu pour l'histoire des bateaux, mais là effectivement, un peu comme dans Plume au vent, on va se retrouver beaucoup...
Sur terre.
Sur terre.
Ouais, parce que, et pour les bateaux, c'est pas plus le...
C'est plus embêtant.
Il y aura des canoës aussi,
le peintre officiel de la marine française, là...
Jean-Yves Deslitte.
Oui, voilà.
Bon, ils sont quelques-uns. Hein. En son temps, il y avait Bourgeon aussi qui était très apprécié pour la qualité de ses dessins de bateaux à voile. Voilà. Donc, je vous en ai déjà livré beaucoup parce que cette histoire de la princesse indienne, on ne le sent pas venir tout de suite. Elle apparaît au deuxième ou troisième tome du deuxième cycle. Mais voilà, c'est l'angle d'attaque que j'ai utilisé.
Est-ce qu'il y a des surprises au niveau du récit ? Est-ce que l'épervier ne va pas toucher à la princesse indienne, par exemple ?
Alors, justement, ce qui est plaisant, et c'est là où je faisais référence à la belgitude, c'est qu'il n'y a aucune surprise dans ce truc-là. À chaque fois qu'il y a un truc que tu attends, il arrive. Il y a un super méchant italien qui est tueur à gages, il y a une Milady pas possible qui est super belle, il y a sa petite amoureuse qui est martyrisée par un félon de marquis joueur qui veut prendre sa dot.
T'es sûr que tu parles pas du scorpion là.
Il y a l'épervier qui se fait trahir tous les quatre doigts, torturer et compagnie, mais en fait il arrive toujours à s'échapper et puis à tuer tous les méchants. Voilà, tous les clichés de la bonne idée d'aventure historique sont présents, il n'en manque aucun. Mais ce qui est vachement bien, c'est que moi je me suis amusé, je vais prendre un exemple, je me suis amusé à sortir mon téléphone 2-3 fois pour aller voir sur Wikipédia il y a une ville qui s'appelle Louisville. Voilà. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle a existé, qu'en fait, l'architecture et les plans qu'utilise Pellerin sont exactement ceux qui sont connus des spécialistes. En voyant ça, tu t'aperçois que le type, la légende, c'est qu'il prend son temps pour faire des bouquins, mais en fin de compte, je pense qu'il les travaille surtout beaucoup, en fait.
Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les ayants droit de Barberouge ? Non, la question, parce que la façon dont tu présentes l'épervier, c'est exactement le parcours de Eric, le fils adoptif de Barberouge.
Alors, je connais pas l'arrière du décor, mais encore une fois, est-ce que les ayants droit pourraient pas eux-mêmes avoir des problèmes avec d'autres ayants droit. En fait, on n'invente jamais un genre. Là, c'est effectivement non, un genre de corsaire.
Pour mémoire, le fils de Barberouge, c'est un ancien noble qui est adopté par Barberouge. Il veut reprendre ses titres de noblesse, il finit au bagne. À un moment, il est corsaire aussi.
Mais enfin, tu prends la moitié de la littérature d'aventure de l'époque, voire de la bande dessinée d'aventure avec des pirates, c'est le même personnage. À ce compte-là, est-ce que les sept vies de l'épervier vont lui faire un procès pour avoir utilisé aussi le moineau qui s'appelle épervier, tu vois ? Enfin, on s'en sort plus. Moi, j'aime pas trop ces histoires de procédure chemin français là-dessus, mais... Mais voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas à revendiquer une quelconque paternité. C'est vraiment son œuvre pleine. Elle est épique pour ceux qui aiment bien ça. C'est couillon comme tout au niveau des rapports amoureux. On sent quand même depuis le tome 1, quasiment, notre personnage, il est amoureux d'une nana qui n'a pas compris ou qui ne veut pas, en fait. Et puis lui, il n'ose pas lui dire, et ainsi de suite. Et au dixième tome, ils ne se sont pas encore fait un bisou. Si, ils se sont fait un bisou dans le tome 5, je crois. Mais bon, c'était torride.
Ouais. Et ça sort toujours en cahier de prépublication, comme ça sortait à un moment ?
Pas cette année, parce qu'ils ont fait un tirage noir et blanc. Et puis, il y a eu le Covid. Là, le bouquin, j'ai été surpris, d'ailleurs, au passage, en finissant le tome 10. A priori, le clap de fin, il l'a fait le... c'était le 20 mars 2020, tu vois, donc le bouquin il attendait au chaud. C'est vrai qu'à cette époque-là, ça valait mieux pas trop sortir une bande dessinée.
Il fallait l'imprimer, de toute façon, c'était pas possible. Voilà. Ok.
Je vois que mes collègues ont préparé de super chroniques Télérama et que sur l'épervier de Pèlerin, ils n'ont pas grand-chose à dire.
On écoutait religieusement, enfin, c'est tellement beau ce que tu as fait.
Mais Quentin, si tu veux, pour lui, les pirates, ça commence à Pirates des Caraïbes.
Bah ouais, c'est vrai, quand on est jeune et qu'on a des mèches comme ça, on ne peut pas être autre chose qu'un fan de Pirates des Caraïbes.
Et moi, je me disais, je vais passer.
C'est juste parce que je lui ai pris sa blague, sinon il y a plein de questions et du coup, il boude. Ok, merci Fred. Donc tu nous parlais de L'Épervier, de Patrice Pèlerin.
Chez Cadran, alors...
Chez Cadran et Dupuis avant.
Et voilà, ouais. Ou chez Soleil, si on aime bien ça.
On va faire la première pause musicale, Public Image Limited de Pile. We'll be right back. deuxième partie des Gardiens de la BD, toujours sur PFM. Laurent, tu vas nous parler de la suite d'une bande dessinée dont tu nous avais parlé l'an passé.
Tout à fait, Le Vagabond des Étoiles de Riff Reb aux éditions Soleil Noctambule.
Sponsorisé par Télérama.
Pour le moment, c'est sponsorisé par Guy, surtout.
Tout à fait. Depuis qu'on l'a vu en Angoulême... alors, on retrouve Darrell Standing, qui est condamné à mort. On va enfin découvrir, dans le deuxième tome, pourquoi il est condamné à mort. En fait, il est condamné à mort pour... parce que sur le pénitencier de Folsom où il est, il y a une loi particulière qui permet au directeur du pénitencier de condamner un mort si il estime que de condamner à mort s'il estime qu'un prisonnier a agi contre le règlement, et en l'occurrence. Pour une histoire de vengeance, il agresse un maton, et juste pour cette raison, sa peine est commuée en peine de mort. Donc on le retrouve, on l'a quitté sur le premier tome, il était quasiment persécuté par l'ensemble des matons et par le directeur, qui pour le casser moralement, lui mettait une camisole de force et il restait comme ça immobile pendant plusieurs jours sans manger, sans boire, et ça lui donnait l'occasion de se déconnecter de la réalité. Il partait dans une dimension, dans des voyages astraux un peu bizarres, où il remontait dans le temps, où il était il incarnait des personnages et on suivait comme ça des tranches de vie de personnages qui ont existé sur des périodes déterminées, donc qui remontaient dans le temps. Sur ce deuxième tome, on monte d'un cran dans la cruauté des matons et du directeur de prison, c'est-à-dire que comme il résiste, comme à travers ses voyages un peu spirituels où il réincarne des personnages, il arrive finalement à s'échapper à la réalité et à échapper aux souffrances physiques, et ben on lui en rajoute. On lui rajoute une deuxième camisole, on serre un peu plus fort, et on est dans un système un peu pervers où finalement, plus il est torturé, plus ça lui permet de s'absenter dans ses rêveries un peu où il remonte le ton.
C'est pas extatique, mais presque ça lui permet de s'échapper et d'aller ailleurs.
C'est ça. Et il arrive à communiquer aussi. Il trouve un compagnon de cellule qui a les mêmes capacités, donc il arrive à communiquer avec lui. Et puis on le retrouve dans différents personnages. Un comte français. Un enfant qui traverse l'ouest des États-Unis avec
et qui doit
avec
se méfier
des Indiens,
des Amiens, méfier des Indiens qui foutent tout en l'air, ces salopards.
Qui sont utilisés par les Anglais pour aller massacrer les Français.
Encore des Indiens qui ravagent tout, mais c'est fou.
une migrante irlandaise qui se retrouve dans un naufrage. Enfin voilà, donc on est ballotté comme ça entre un retour à la réalité et des immersions dans le passé à travers des personnages singuliers. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est encore et toujours le dessin de Riff Reb. On a quand même un magnifique dessin avec une utilisation d'un ancrage quasi parfait, des aplats noirs. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est une adaptation de Jack London que je connaissais pas forcément, on l'attendait pas forcément là-dessus, parce qu'il y a quand même un message assez fort qui est laissé, qui est finalement...
C'est un plaidoyer contre l'utilisation de la camisole, en gros.
Alors, il y a ça, et puis il y a l'idée aussi qu'à travers les histoires, dans, les personnages dans lesquels il se réincarne. Il y a toujours un côté un peu tragique, violent, avec l'idée que finalement l'humanité, elle s'inscrit toujours dans un processus tragique, et c'est quasiment à la fin, on a l'impression qu'il dit bah voilà, de toute façon je peux mourir parce que c'est le cycle, et
je connais déjà la fin, voilà. Enfin, j'ai déjà vécu la fin,
et je pourrais pas forcément changer grand chose parce que c'est immuable. Voilà.
Ouais, et ça rejoint les thèses politiques de London, qui était socialiste à l'époque et qui croyait en socialisme pour amener un monde meilleur.
C'est ça.
Moi j'ai été surpris, excuse-moi.
Vas-y, Mélie.
Moi j'ai été surpris, c'était l'an dernier qui était sorti ce bouquin,
ouais.
de voir qu'on le faisait en deux parties. Et la deuxième partie apporte vraiment quelque chose à l'histoire, parce que
c'est la suite du roman, donc oui.
Ouais, mais est-ce qu'on pouvait pas faire tout ça en un seul album ?
Je pense, parce qu'effectivement, ça apporte la deuxième partie, elle apporte.
Y a un côté répétitivité des flashbacks qui pour moi, j'ai lu que le premier tome. Le vrai propos, c'était les conditions de vie en prison, et c'était plus un enrobage pour mieux faire passer le sujet. Difficile. Enfin, moi, j'avais pris comme ça.
Ouais. Alors, les passages dans le deuxième tome, ce qu'on pourrait effectivement reprocher, c'est que les passages où effectivement il se réincarne dans des personnages un peu historiques, ça prend beaucoup plus de pages qu'au premier tome. Et donc, alors c'est intéressant si on fait une lecture simple, parce que effectivement c'est des tranches de vie, puis c'est bien écrit. Enfin, il y a quand même, c'est des histoires dans l'histoire. Voilà. La migrante irlandaise qui se retrouve naufragère. On suit comment elle survit, comment elle construit son abri, ce qu'elle met en place. Enfin voilà, on suit tout ça. Donc voilà, c'est une histoire dans l'histoire. Ça apporte pas forcément grand-chose de plus au scénario par rapport au tome 1. Et effectivement, ce qu'on pourrait éventuellement reprocher, c'est le fait que la partie forte du tome 1, qui était la relation de Standing avec ses matons et finalement ce qui était dénoncé dans l'album, ben on le sent un peu moins. Cela dit, ça reste quand même super bon. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense qu'il y a un coffret qui sort ou qui va sortir avec le tome 1 et le tome 2.
Et un ex-libris.
Et un ex-libris.
Ça va faire plaisir au libraire.
Tout à fait.
Bon, j'en connais pas. Merci Laurent. Voilà. Tu nous parlais du tome 2 du Vagabond des Étoiles, sorti chez Soleil, dessiné par Riff Reb, d'après Jack London. Quentin, tu vas nous parler d'un manga. Alors, je ne sais pas, le X, on prononce ou pas ? Est-ce que c'est Spy Family ou Spy Cross Family ?
Alors, Spy Family, Fred, il va être content. Je vais parler de japonerie. Donc, c'est un manga de Tatsuya Endo, qui est un mangaka qui avait déjà fait quelques séries qui avaient assez mal marché sur le territoire français. Ça va pas être le cas de Spy Family, dans lequel on suit les aventures de Twilight, qui est un envoyé de West Alice sur les terres d'Ostania, deux contrées en pleine guerre froide.
Tu dis pas Twilight, comme dans My Little Pony.
Et donc, Twilight est un redoutable tacticien, génie de déguisement, un espion hors pair qui a l'habitude de travailler seul. Et là, quand l'histoire commence, situation inédite. Pour l'opération Strix, il est chargé de créer une famille pour infiltrer l'école Eden, fréquentée par le fils de sa cible, Donovan Desmond. Pour ce faire, Twilight va endosser une nouvelle identité, Lloyd Forger, et va adopter Anya, une jeune télépathe dont il ignore les pouvoirs, avant de choisir pour femme une modeste fonctionnaire, Yor Briar, qui est en fait une redoutable tueuse à gages, elle-même à la recherche d'un amant pour renforcer sa couverture. Vous le sentez, ce doux parfum de mystère et de secret ? Ce cocktail détonnant de faux-semblants ?
Je sens la préparation et l'écriture.
Je sens venir l'identification à plein, surtout chez toi.
Et donc ce tome 1 est une promesse extraordinaire, reposant pourtant sur un principe très simple, la réunion de personnages mal assortis qui doivent bon gré mal gré tirer parti les uns des autres. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien ? Premièrement, l'humour, présent sous de multiples formes. Comique de situation, comique de répétition, absurde, tout y passe. Cet humour repose pas mal sur le personnage d'Anya qui lit dans les pensées et de fait essaie de faire toujours au mieux de soutenir ses parents, souvent en interprétant très mal ce à quoi ils pensent. De son côté, Twilight, tiré Lloyd, meilleur agent de son groupe, ultra perfectionniste et capable de répondre à toutes les situations. Et en ça, ce qui est intéressant, c'est que le manga échappe un petit peu au schéma habituel de shonen neketsu. Alors, pour les non-initiés, shonen neketsu, c'est les shonen à trame initiatique, comme Naruto ou One Piece. Et en fait, ouais, ici, le héros est déjà le meilleur dans sa partie. Donc en fait, il n'y a pas de grand objectif, devenir le roi des pirates ou devenir le meilleur ninja de tous les temps. Et du coup, on ne sait pas trop où ça va. On vogue au gré du vent, c'est-à-dire la principale question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire semblant d'être une famille ?
Et en ce sens, ils ne sont pas les meilleurs pour le coup.
Bah, ils y arrivent quand même, parce que comme ils sont tous extrêmement talentueux, ils se sortent de situations plutôt épineuses à chaque fois, grâce à leur talent personnel.
Le comédien.
Grâce à la petite fille aussi.
Ouais.
Qui rattrape le coup comme elle peut grâce à ses pouvoirs.
Quand c'est pas elle qui les fout dans la panade, parce qu'il y a des fois aussi où, du coup, en entendant ce que pensent ses parents, elle est complètement stressée, elle dit que des conneries. L'autre élément qui est super cool dans Spy Family, c'est le sujet. Le manga, en général, s'est réputé pour traiter un petit peu tous les sujets. Et en fait, l'espionnage est un peu aux grands absents. Peut-être parce que c'est pas trop dans la culture japonaise à la base. Enfin, je vais me reprendre un petit peu. L'espionnage, on en trouve un peu tout le temps, mais c'est souvent des personnages secondaires, en fait, qui font ça.
Bah après, les ninjas, c'est des espions.
Les ninjas, c'est des espions. Mais en même temps, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus. À côté, on peut... par exemple, dans FMA, on peut prendre le personnage...
Fullmetal Alchemist.
Ouais, tout à fait. Le personnage de Lust ressemble à un espion, mais ça n'en est techniquement pas une. Et donc voilà.
Bah, et après, enfin, l'espionnage, il n'y en a plus trop parce que depuis la fin de la guerre froide, toute l'imagerie qui pouvait y avoir un peu disparu. Un auteur spécialisé dans le pur roman d'espionnage comme John Le Carré est passé à autre chose maintenant.
Ouais, mais si tu prends par exemple dans le comics des espions, t'en as beaucoup plus. Et le Shield, par exemple, c'est quasiment que des récits d'espionnage. Et si tu veux citer un manga dont le sujet très clairement c'est l'espionnage, en fait.
Metal Gear, c'était des comics. C'était pas un manga.
Voilà, on revient à ce que je disais. Merci.
Ouais, moi, j'ai une petite remarque que tu as peut-être la réponse. J'imagine que Spy Family, c'était pas le titre japonais. Et quand j'ai vu le livre arriver, il se trouve que je connais ma passion pour le shonen. J'ai demandé à qui savait de m'expliquer un petit peu si ce manga valait le coup. Or, pour ce qui est du travail de l'éditeur, je pense qu'ils se sont un peu tout plantés. Je trouve que la couverture, elle est merdeuse. C'est un fond vert avec un personnage dessus. Il y avait peut-être moyen de travailler une couverture un peu plus sympa.
Ils n'ont peut-être pas le droit de travailler une couverture plus sympa.
Ouais,
bah, ne serait-ce que prendre la couverture originale, on ne sait jamais. J'en mettrai pas ma main coupée, mais je parie qu'elle était
meilleure. Il y a le public qui veut pas ouvrir le micro, mais qui me dit que c'est la couverture originale.
Ah d'accord. Bon bah écoute, public, merci de me confirmer.
Oui, parce qu'on est encore une fois en public.
Ouais. Non mais bon voilà, tu la trouves sympa toi cette couverture ?
Bah, je la trouve assez efficace et qui reflète assez bien le côté très propre sur lui, pour ne pas dire complètement maniaque du personnage principal, qui d'ailleurs contribue fortement à l'humour de la série.
Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était super drôle, hyper original. Mais par contre, je trouve que cette couverture, elle ne dit pas ça. Voilà.
Ah, tu veux dire, comme par exemple, tu chroniquerais une série qui s'appellerait L'Épervier, tu verrais un bateau, ils sont sur la terre tout le temps. C'est ça ?
Ben non, parce que M. Pellerin, il met des bateaux sur ses couvertures, même s'ils sont sur terre.
Ok. Quentin, quelque chose à...
C'est le premier tome ?
Ouais, le premier tome est sorti au mois de... septembre.
Le 2 sort en novembre, il me semble.
Oui, tout à fait. Et en fait, non, le dernier élément, peut-être pour conclusion, c'est que, en fait, c'est assez rigolo de penser espionnage et comédie, parce qu'en fait, on se dit...
Tu n'as pas vu Top Secret ?
Ouais, oui, il y a des Anglais qui ont déjà fait ça, hein, il me semble.
Ouais, mais c'est pas l'imaginaire que tu associes tout de suite, d'autant plus que Yor Brynner, elle est tueuse à gages, donc tu t'imagines un truc assez lourd, et en fait, spontanément, c'est pas deux idées que tu associes bien. Et pourtant, un espion, ça joue la comédie, ça joue des rôles, et au final, peut-être que ça un petit peu dans les gènes.
L'espionnage, c'était le grand jeu, c'était le non truc, donc là, ils vont à fond dans le...
Tout à fait.
Alors moi, j'espère que ce manga va fonctionner parce qu'effectivement, il est très original dans la gamme des shonen.
Merci, monsieur spécialiste manga. donc, Quentin, tu nous parlais de Spy Family de Endo chez Kurokawa.
Oui.
Si je ne me suis pas trompé. On va faire la deuxième pause musicale de Dandy Warhol's Bohemian Like You. Troisième partie des gardiens de la BD. On va parler un peu comics, Fred, puisque ça te manquait.
Chouette.
Je vais faire une double chronique. Je vais vous parler de Die, dont le tome 1 est sorti chez Panini Comics.
Le chef, il est vraiment trop fort. Hein. Maintenant, c'est toujours double chronique, ouais. Sinon, on n'en fait pas.
Mais non, mais ça justifie. C'est donc
salaire.
C'est sorti chez
deux salaires.
Ouais, voilà. Sorti chez Panini Comics.
Normal,
au dessin, c'est Stéphanie Hans. Au scénario, c'est Kieron Gillen.
Ton premier patron, il est au courant.
Au scénario, c'est Kieron Gillen. Et je vais vous parler de Once and Future, aussi scénarisé par Kieron Gillen et Dan Mora au dessin. Dan Mora, on en avait parlé pour le Klaus qu'il avait fait chez Glénat Comics, alors qu'on ne devait pas parler de Glénat, mais on retombe toujours dessus.
Il y a aussi surtout son très bon Ex Omnibus.
Ouais, mais ça, c'était pas
super,
terrible.
Super, super, arrête tes conneries. C'est parce que toi, t'es un vieux con.
Ouais, tu vas dormir dans ta caisse ce soir.
Tu les aimes bien, tes remplaçants. Hein.
Ouais. Die d'abord. Alors, Die, c'est pas la mort. Enfin, c'est pas mourir, c'est le dé de jeu de rôle. Puisqu'on va suivre 5 adolescents. Alors, ça commence en 1991 pour les 16 ans. D'un des persos, un des amis, Chuck, va les inviter à participer à une soirée de jeu de rôle sur table, donc avec des dés, des écrans.
Des dés
des trucs qui rendent sataniques, enfin voilà. C'est une création originale qu'il va faire. Les gamins vont disparaître pendant 5 ans, pendant 2 ans. En 93, 5 réapparaissent, dont une fille qui a perdu son bras. Et un des joueurs qui est resté bloqué dans le monde du jeu.
T'aimes bien les gens qui disparaissent.
Ouais. En 2018, c'est juste les 20 premières pages, on retrouve tous les persos qui ont la quarantaine, qui sont tous plus ou moins désabusés, dépressifs, sauf un qui a trouvé les moyens de vendre son histoire pour en faire un film. Ils reçoivent chacun un dé et ils comprennent qu'ils ne vont pas avoir d'autre choix que de retourner dans le monde du jeu de rôle pour aller se confronter à la personne qui leur a envoyé le dé.
Ah bah voilà, c'est ce que je me disais. C'est comment le truc, le film avec Jumanji ? Merci public.
Oui, alors c'est du Jumanji intelligent. Pardon.
Le contraire nous aurait étonné.
Non, l'ambiance est c'est super déprimé comme truc. Les dessins de Stéphanie Hans, il n'y a aucune couleur joyeuse. Enfin, elle fait rarement des couleurs joyeuses dans ses... C'est quasiment de la peinture numérique, de toute façon, ce qu'elle fait. L'intrigue est simple, parce qu'en fin de compte, ils vont vivre un scénario de jeu de rôle, découpé en plusieurs lieux à visiter, sauf qu'il y a un discours méta, alors pour les anciens rôlistes, ou les actuels, qui fait que chaque partie est confrontée à un cliché du jeu de rôle. Notamment, il y a pas mal d'articles d'ailleurs à la fin de l'album, de Kieron Gillen explique tout ça. Il y a 20 pages où normalement ils doivent aller attaquer le méchant, ils disent non, on reste là. Situation classique qu'ont connu tous les maîtres de jeu. Je vois Fred sourire. Non, on reste à l'auberge, on est
c'est
mieux.
On continue à se bourrer la gueule à l'auberge.
Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé ça assez intriguant, tout le discours méta. En bonus, il y a des liens à télécharger, parce que Gillen a développé son jeu de rôle, donc vous pouvez le télécharger. Il y a un prix à 10€ jusqu'à la fin d'année, il me semble, chez Panini. Parce qu'après, il passe à 22, je crois.
Tu dis que ça s'appelle comment ?
Die. D-I-E.
Parce que c'est pas Dice ?
Si, mais c'est les deux. Enfin, t'as deux orthographes. Mais oui, t'as Dice aussi.
C'est peut-être pour ça que ça coûte 10€. Je sais que ça coûtait trop cher à mettre sur la couverture.
Non, parce que le tome 2 sort le mois prochain, il sera à 20.
Ah. Donc, ça me rassure.
Donc moi je recommande pour ceux qui aiment surtout tout le discours méta que pouvait déjà voir Gillen notamment dans Wicked and Divine. Quentin me fait oui de la tête. Et alors l'autre titre est plus facile d'accès, c'est Once and Future, donc c'est Dan Mora au dessin. C'est toujours Kieron Gillen au scénar, c'est sorti chez Delcourt. Et là, le point de départ est simple, un groupe de nationalistes britanniques se décide à réveiller le roi Arthur. Pour le protéger de la menace, des menaces extérieures qui pèsent sur le royaume.
J'ai envie de dire que tu as des saines lectures. Hein.
Ouais. Sauf que il y a une espèce de Buffy en maison en EHPAD. littéralement, Bridget qui sort de sa maison de retraite et qui va tout faire pour empêcher au départ le réveil du roi Arthur. Et la reconnexion avec les différents éléments du mythe arthurien. Elle est aidée par son petit-fils Duncan, qui est le concon de service, conservateur de musée, et qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Et à deux, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour lutter contre cette menace. Et Bon, ça, c'est le résumé vite fait. Il y a des scènes marrantes et politiques où, quand Arthur se réveille, il goûte le sang des fachos qui l'ont réveillé. Et malheureusement pour eux, ce sont des anglo-saxons, donc ils les tuent parce qu'ils ne sont pas de purs bretons. Donc, tous ces sbires sont foutus en l'air. C'est assez intéressant dans la narration de Gillen. Alors, ça se lit super vite, c'est quasiment une course-poursuite du Indiana Jones. Elle était première à arriver à l'artefact. Sauf que Gillen a l'intelligence de ne pas recontextualiser systématiquement tous les éléments de la légende arthurienne. Qui est Perceval? Qui était Galahad à l'époque? Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il n'est pas juste une intégration de la religion chrétienne au mythe arthurien? Tous ces trucs-là sont... bon, ok. Mais à un moment ou à un autre, il fait les connexions, mais pas tout de suite. Donc, il te laisse réfléchir un peu.
Il paraît quand même bien déconnecté.
vous êtes avec vos histoires terre à terre de pirates, non, d'Indiens qui ravagent l'Amérique, si tu veux. C'est pas pire que. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que d'habitude, Gillen prend son temps, il installe un univers et tout, et là, il va vraiment à 200 à l'heure dès le début du récit, il s'en tient pas. L'autre avantage de Once and Future, c'est que c'est prévu en 3 tomes. Normalement, les deux derniers sortiront chez Delcourt en fin d'année. Et donc, je recommande fortement, sachant que c'est plus facile d'accès que Die. Fred n'a pas l'air convaincu, c'est pas grave. Donc, je vous parlais de.
Je me demande ce que t'as offert Delcourt pour que tu dises ça.
Non, je.
Gléna peut-être proposer plus. Il y a Château Bordeaux là qui sort bientôt.
Non, putain, ça non. Encore que tu seras peut-être mieux que Ramirez. Voilà.
Quelque chose à dire.
Pardon, je me suis trompé. GTA, la bande dessinée sans les droits.
Il n'aime pas les moustachus, c'est pour ça.
Bref, je vous parlais de Once and Future de Kieron Gillen et d'Anne Mora, c'est sorti chez Delcourt, et de Die du même Kieron Gillen et de Stephanie Hans, c'est sorti chez Panini. Laurent. C'est toi qui vas enchaîner là-dessus. Tu vas nous parler du nouvel album de Chloé Cruchaudet. C'est toujours sorti chez Delcourt. Non, c'est Delcourt Soleil celui-là.
C'est Soleil.
Ouais, c'est pareil.
Collection
ouais,
c'est Noctambule.
Une soirée à thème.
C'est la fête à Guy.
Donc, les belles personnes.
Ça parle pas de nous.
Bah, ça pourrait.
Vous n'êtes pas de belles personnes.
Alors,
l'idée.
L'idée de cet album a été impulsée par le Festival BD de Lyon, qui a lancé un appel à contribution et donc a demandé à ceux qui le souhaitaient d'envoyer la description de personnes qu'elle considérait comme étant des belles personnes.
Alors j'ai envoyé le portrait d'une personne présente ici et pas eu de réponse, donc j'ai pas été retenu comme belle personne.
Bah, en fait, dans belle personne... Il y a aussi du second degré. C'est pas uniquement le sens premier du mot. C'est peut-être pour ça.
Je vous merde.
Et donc, y a eu des contributions. Et parmi ces contributions, Chloé Cruchaudet en a choisi 14.
Sur quels critères?
Eh bien, justement, sur des critères. Elle a lu chaque contribution. Et en fait, elle a choisi 14 personnages parce que l'idée, c'était effectivement que chacun décrive le personnage. Et ce qui est intéressant dans l'album, c'est qu'à la fin, il y a effectivement les 14 courriers et descriptions des personnages qu'elle a choisis.
C'est un peu un rip-off des trucs de Velleman. Le truc de cul de Velleman où c'était des courriers.
Le public veut s'exprimer.
Laurent et moi, l'herbier sauvage. Ou c'était des courriers de. Mais donc là, c'est sans la partie cul, c'est ça?
Ça, c'est exactement.
Du coup, ça fait un striptease?
Non, ouais, alors un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, elle n'a pas rencontré ces personnages. Elle ne les a pas rencontrés. Non,
ce ne sont pas des personnages, ce sont des personnes.
Ouais,
elles
des
existent.
Personnes, ouais. Et donc, elle l'interprète.
En c'est fait, quand tu rencontres des gens dans la rue, tu les vois en 2D, c'est ça?
C'est ça. Exactement. Tu sais, moi, je travaille dans le champ du handicap. Hein.
Toi aussi, t'as un deuxième métier?
Ouais, moi aussi. Mais enfin, moi, je me fais pas payer pour venir ici.
Hein. Oh, c'est pas grave, sa patronne aux impôts, elle le sait pas.
Et donc,
pas
en fait,
encore.
elle interprète, c'est son interprétation du témoignage, et donc c'est sa vision de la personne à travers la description qui est faite par une autre personne. Et c'est vraiment intéressant, ce qui fait que...
C'est un peu comme un jazzman qui reprend une partition et qui se l'approprie.
C'est ça, c'est un peu ça. Et donc c'est des tranches de vie, il y en a 14, de longueurs différentes. Et voilà, voilà, ça c'est fait. Donc il y a plus ou moins de planches selon les personnages. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, c'est frais... par rapport à certaines BD qu'elle a sorties, enfin, et c'est ce que j'aime bien chez Cruchaudet, c'est que elle explore quand même des champs complètement différents. Elle peut aller sur des BD un peu sombres comme La Croisade des Innocents ou
Mauvais Genre
ou Manhattan Groenland, et puis basculer sur des trucs.
Tu l'as dit en Vernon là.
Ouais, alors Groenland, Manhattan, si tu veux.
Non, et mais basculer... toi, c'était la suite quand il retourne.
C'est ça. Et basculer sur un album jeunesse, par exemple. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment sympa parce que on lit, ça se lit facilement, on se prend pas la tête. Et puis, c'est vraiment des tranches de vie où en fait, elle met beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie. Et ça fait quand même du bien de pouvoir lire un peu...
Et c'est toi qui sabres Zidrou à chaque fois.
Non, mais c'est parce que... Alors, à la différence...
C'est Olivier que là, sort de ce corps.
Ouais, c'est bon. Non, à la différence, c'est que là, aucun personnage n'a un cancer, voilà. Est névrosé...
On a pour 10 minutes.
Et donc, effectivement, c'est plutôt bienveillant et plutôt dans l'empathie et plutôt sur un volet un peu... voilà, positif, parce que c'est vraiment, vraiment un regard qui est porté avec beaucoup de tendresse. Et voilà, c'est mon cœur, mon petit cœur qui me fait parler. Et je le recommande chaudement, en sachant que, voilà, au niveau du dessin, on reste sur de l'aquarelle, qui est un peu la marque de Cruchaudet. Et c'est doux et c'est vraiment très, très sympa. Donc je vous le conseille.
Ok Laurent, tu nous parlais de les belles personnes.
Les belles personnes.
De Chloé Cruchaudet, c'est chez Soleil.
Tout à fait.
Troisième pause musicale, Courtney Barnett et Kurt Weill, Continental Breakfast.
1, 2, 3, 4. What I could have told you, but I don't believe I've the balls to let you know. I can say that 'cause I'm a man, but I feel like a little boy today.
I cherish my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever.
Somewhere on the sphere around here. I cherish my intercontinental friendships. Not much very big on enemies, so I kick a can way up into the sun, man, but it falls down into a ravine. I don't mean to even think about it that way, but I do.
Watching the waves come in that night from my back porch to porch swing, swinging on its own. See, it's just an inhabitant of some holy ghost.
I walk like a bruised ego along shorefront property unknown to me.
But I'm feeling inferior on the interior.
Don't you see?
Guarded and sentimental.
And after all, it's just a rental.
Like better luck performing telekinesis on a priestess.
You won't believe what I might have, could have told you. But I wouldn't wanna leave you tripping out over it. Okay, more so me, but or just me.
Watching the waves come in at night from my back porch, stoop porch swing, swinging on its own. See, it's just an inhabitant of some holy ghost. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever.
Somewhere on the sphere, around here.
Dernière partie des Gardiens de la BD pour cette semaine. On va aborder, à mon sens, un des albums majeurs de cette année, La Cage au Con, dessiné par Robin Recht et scénarisé par Mathieu Angotti.
Moi, la première surprise de ce titre, c'est que je suis d'accord avec toi. Alors, ça m'épate.
Putain, je vais dire l'épervier. donc Robin Recht, on l'avait laissé sur son Conan définitif il y a 2 ans à peu près. Il avait déjà travaillé avec Angotti sur Désintégration, où c'était les souvenirs, l'expérience difficile de Mathieu Angotti au sein du gouvernement Hérault, où il avait été mandaté pour travailler sur une loi pour l'intégration de la diversité. C'est, enfin, pour super résumé, super d'actualité en ce moment en plus. Et alors, La Cage au Con, ça nous raconte l'histoire d'un personnage dont on ne connaîtra jamais le nom. On sait juste que sa copine, elle s'appelle Karine. Elle est de droite parce qu'elle veut de l'argent.
Et lui, il est de gauche.
Et lui, il est de gauche.
Mais je le connais.
Mais il te ressemble un peu en plus.
Ah, c'est pas sympa.
C'est la barre, okay. Donc, bref. Et donc,
c'est parce que t'as vu Laurent Slip à Angoulême, c'est ça?
Oui, peut-être. et lui, comme il veut profiter des prouesses sexuelles de Karine, il lui faut de l'argent. Et un soir, il va traîner dans son bar de banlieue triste. Il va entendre un homme se vanter comme quoi il a plein d'argent. Il va décider de le suivre pour dire que de toute façon, moi je suis de gauche, je suis pour le partage, donc je vais le cambrioler. C'est quasiment les dialogues. Hein. Et le problème, c'est quand il rentre dans la maison, le propriétaire de la maison, donc, qui s'appelle Jacques, l'attend un pistolet à la main, lui disant « Qu'est-ce que tu fais ? Tu es désormais, limite mon esclave, et ta première mission, ça va être d'aller enterrer à la cave ton prédécesseur avec tous ceux qui étaient là avant. » J'arrête là le résumé.
Quel dommage.
Bah ouais, non, mais après. Oui, alors après, ça va aborder les joies du téléachat. entre autres. pardon. Donc, en fin de compte, c'est un huis clos quasi théâtral à deux persos. Il n'y a jamais plus de 2 personnages dans les scènes.
Attention au spoil. Hein.
Ben, il n'y a jamais plus de 2 personnages dans les scènes. Il y a un côté de thriller loufoque, parce que si ce qui est raconté est quand même très dur, séquestration et compagnie, la verve des 2 personnages fait qu'il y a un décalage permanent avec ce qui est raconté et ce qui est dit en fin de compte.
Bah, le personnage, le faire-valoir comique de l'histoire, c'est le cougar, en fait. C'est effectivement cet homme de gauche là qui va se faire séquestrer par sa victime. Et c'est vrai qu'il est en permanence en train de nous interpeller en nous disant que le cougar va sauter sur son ravisseur, mais au final, il est quand même pas trop doué pour ce qui est de se défendre. Bah,
même par moment, tu te dis qu'il est là bien.
Ah bah, syndrome de Stockholm, ouais, complètement. Je pense qu'il pourrait rester toute sa vie là-bas. En tout cas, à la fin, c'est ce qu'on se demande.
Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, Reich casse encore son style. Notamment sur les paysages de la banlieue parisienne, au départ, on n'est pas loin du Voyage au bout de la nuit, du Streetcar Tardy.
Bah, clairement. Pour moi, c'est un objet entre Daniel Pennac et les Malocènes et puis Tardy qui illustre la banlieue. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'album probablement de la fin de l'année parce qu'en plus, il est en un seul tome et d'une efficacité redoutable.
Ouais, moi, j'aurais mis qu'il y a un côté Hitchcock aussi pour ces huis clos. Le Limier aussi, avec Laurence Olivier et Michael Caine. C'est jouissif de par les dialogues. Ça se prend jamais au sérieux malgré le sujet.
C'est ça qui. Côté Joséphine Ange Gardien.
Non, alors si tu veux vraiment le rapprocher d'un truc. Non,
parce que là vous tapez tellement haut que.
Non, alors si tu veux.
Peut-être que ça aussi.
Si tu veux le rapprocher d'un truc à la télé, t'es pas loin de l'humour Groland ou qui balance les pires saloperies, enfin les trucs les plus noirs possibles sous couvert de cynisme à fond. D'ailleurs le con, enfin le personnage.
Ouais, alors attention à ce que tu dis, parce que enfin, qui est le con dans cette histoire ?
Le personnage séquestré a des faux airs d'un espèce de jeune Gustave de Carverne. Désolé, non. Mais c'est vraiment... on ne peut pas trop en parler, parce qu'il y a un twist final. Laurent, lui, il veut spoiler. Ça t'a manqué, toi, donc. Oui, parce que c'est Laurent, le public. Mais c'est vraiment quelque chose que je recommande. J'avais dit à un ami qui hésitait à le lire, lis les 4 premières pages. Si tu vas pas plus loin que les 4... Si au bout de 4 pages, t'es pris dedans, t'iras au bout. Sinon, ça sert à rien de continuer.
Ouais, alors préciser aussi pour les lecteurs de Télérama que, en fait, le bouquin est adapté d'une nouvelle de Franz Bartelt.
Donc, c'est un roman.
C'est un recueil de nouvelles, jeune homme. Et le.
Oh, t'en bats !
Dans ta gueule !
Et le public, on se calme.
Et en plus, son micro est coupé.
Mais je parle fort.
Eh, on n'est pas chez Hanouna ici. Hein. Calme-toi. Hein.
Et en fait, le monsieur, il a quand même eu le prix Goncourt de la novélisation. En fait. Donc, c'est un type à suivre, a priori.
Ouais, et sachant qu'il était déjà venu au festival du 1er mai.
C'est ça, nos amis du 1er mai avaient l'intelligence de le faire venir. Ouais.
Est-ce qu'on peut annoncer en avant-première que Robin Reich sera le 21 novembre ?
Et je pense qu'on peut l'annoncer, puisque ce matin est tombé sur la boîte mail le fait qu'il acceptait de venir parler au micro.
De venir à PFM, et du coup, il fera peut-être un petit détour par Cap-Nord.
Exactement. Alors, pour PFM. Comme pour Cap Nord, il y a juste un petit problème, c'est que le monsieur, il veut une vitre devant lui, parce qu'il est un petit peu inquiet quant au Covid.
Bon, c'est bon, il se mettra à la technique. Et ça se passera bien. ok, donc c'était La Cage aux Cons de Reich et Angotti, c'est sorti chez Delcourt, et c'est vraiment un album à lire en cette fin d'année. Profitez-en, parce que là, il y a toutes les grosses machineries qui arrivent, et c'est pas sûr qu'il y aura beaucoup de prises de risque là-dedans.
Et oui. Est-ce qu'il fait des tours Eiffel en allumettes ?
Non, non, mais par contre, tu as de très belles descriptions de fellation. Enfin, tu verras.
C'est pas la même chose.
Non, la forme est. Enfin, voilà. Si tu veux. Mais donc, voilà. Donc, c'était La Cage aux Cons. C'est vraiment recommandé. Thibaut, je crois qu'il va le lire et il dira si je me suis trompé ou pas.
Ouais, j'ai l'impression d'avoir loupé la présentation de cet album parce qu'on n'a même pas parlé du dessin. Et même là, sur le dessin, je surprends, en fait.
Oui, déjà sur désintégration, il surprenait. Mais là, c'est vraiment. Il peut reprendre Nestor Burma. Si Tardy arrête de figer le personnage pour les repreneurs.
Ben, je plus sois.
Voilà, donc c'était le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, Laurent, tu vas y avoir droit. À tout à l'heure. Dans vos rêves.